Nous sommes ce que nous mangeons. Si comme nous, vous pensez que notre alimentation peut changer le monde, vous êtes au bon endroit. Je suis Fanny Gianceto, cofondatrice et présidente d'Ecotable. Ecotable s'est donné pour mission d'accompagner le secteur de la restauration dans sa transition écologique en permettant aux restaurateurs de mesurer leur impact environnemental, de se former aux enjeux écologiques et de valoriser leur travail auprès du grand public. Dans ce podcast, j'explore les enjeux sociétaux, sanitaires et sociaux de notre alimentation. Je donne la parole à des experts, mais aussi à celles et ceux qui nous nourrissent au quotidien, qu'ils soient restaurateurs, agriculteurs, entrepreneurs ou militants. La transition écologique ne se fera qu'avec le plus grand nombre. Pour nous soutenir, vous pouvez vous abonner à ce podcast, le noter et nous laisser un commentaire, suivre Ecotable sur les réseaux sociaux, mais surtout venir manger dans les restaurants Ecotable. Bonne écoute! Avant de commencer cet épisode, j'aimerais vous parler de notre nouvelle plateforme de restauration durable dénommée Impact. Cela fait 6 mois que nous travaillons d'arrache-pied avec comme objectif de créer un outil numérique accessible et utile au plus grand nombre de restaurants. Pour être brève, sur cette plateforme, un restaurateur peut mesurer son impact environnemental et le piloter. Ensuite, nous lui donnons 2 ressources pour gagner du temps. Un annuaire de prestataires engagés et de nombreux articles pour comprendre pourquoi et comment adopter une démarche écologique. Avec cette plateforme, nous espérons faciliter une reprise rentable, mais aussi durable pour tous les types de restaurants. Alors si vous êtes restaurateur ou restauratrice, que vous voulez aller plus loin dans la transition écologique, rendez-vous sur impact.ecotable.fr. Bonjour à toutes et à tous. Le lait est l'un des aliments les plus consommés en France, à tout âge et sous toutes ses formes. Lait frais, beurre, fromage, poudre de lait. Surtout la filière laitière est particulièrement développée dans notre pays. Les chiffres donnent à vrai dire le tournis. Ce sont en effet 31 litres de lait qui sont consommés par personne et par an en France pour 3,6 millions de vaches laitières, 1,2 million de brebis et 850 000 chèvres. Tous les ans, 23,8 milliards de litres de lait de vache sont collectés. 5 grands groupes français mondiaux se partagent essentiellement le marché. Lactalis, bien sûr, en numéro 1, mais aussi Sodiaal ou Danone. Derrière ce produit du quotidien, de nombreuses questions éthiques se posent auxquelles on ne pense pas toujours. Tout d'abord, celle du bien-être animal. Qui dit lait, dit insémination bien souvent artificielle. Séparation dès la naissance des petits et de leur mère. Sevrage abrupt, engraissage, abattage des petits pour leur viande. À côté de cela, la filière peine d'un point de vue environnemental. En 2019, par exemple, seulement 2% du lait collecté en France était bio. À côté de cela, l'essentiel du lait vient d'une seule race, la race Primolstein, sélectionnée pour sa quantité de lait produite et donc sa rentabilité. Cela pose d'ailleurs la question de la santé. Faut-il réellement consommer autant de lait? Alors que cache notre consommation de lait aujourd'hui? Pour en parler, je suis avec Erwan Spengler, fondateur de la Bille Bleue, qui prône une filière laitière responsable. Bonjour Erwan.
Bonjour Fanny.
Est-ce que tu peux te présenter déjà?
Ouais, donc je m'appelle en effet Erwan Spengler, j'ai une formation de vétérinaire et je suis le fondateur de la société La Bille Bleue que tu viens de présenter. Société que j'ai créée vraiment en tant que consommateur en fait, parce que j'avais cette sensation qu'il me manquait dans l'assiette certaines garanties en matière de bien-être animal. Même quand on est en train de regarder des produits bio, il y a certains trous dans la raquette et il y avait certaines incohérences dans la façon de produire le lait notamment et dans la filière laitière qui moi me travaillait. Donc j'ai voulu essayer d'avoir une proposition qui puisse apporter des solutions à ça.
Et depuis quand existe du coup la Bible?
Donc la Bible, c'est un projet qui est né mi-2018, donc il y a maintenant un peu quasiment 3 ans là.
Et c'est venu de ta pratique de vétérinaire?
Alors je pense qu'elle n'y est pas complètement étrangère, parce qu'effectivement, bien sûr, par ma formation, par mes expériences, j'ai pu développer une expertise en santé animale, en sujet agronomique, en sujet sanitaire également. Donc ça, bien sûr, je pense que ça a joué. Mais je pense qu'au-delà de ça, ça a aussi été, moi, mes convictions en tant que consommateur, mes observations du monde, mon amour de la nature qui m'ont donné envie d'aller vers ce projet-là, quoi.
L'objectif de ce podcast, c'est de décrypter une thématique. Donc je vais te poser la question immédiatement. Comment, généralement, aujourd'hui, est produit le lait qu'on consomme?
Alors, comme tu l'as un petit peu dit dans ton intro, en fait, c'est vrai que c'est une industrie aujourd'hui qui est énorme. Et je t'entendais un peu énoncer tes chiffres là. On parle en milliards, on parle en centaines de millions. Enfin, je veux dire, on est dans des proportions qui sont quand même assez étonnantes. Et donc, pour faire très court, en fait, la production laitière, c'est un cycle. En fait, c'est un cycle qui implique une vache qui va produire du lait. La chose qu'on oublie souvent, c'est que pour produire du lait, cette vache, elle doit donner naissance à un veau. Et c'est la naissance de ce veau qui déclenche la production laitière de la vache. Et donc, en fait, dans la filière laitière aujourd'hui, le produit que l'on exploite et que l'on transforme ensuite vers du fromage, du beurre, etc., c'est le lait. Mais ce veau qui est né pour déclencher la production laitière, eh ben, il est considéré, en fin de compte, comme un coproduit, comme un déchet de cette filière. Et malheureusement, que ce soit dans des fermes bio ou non bio, eh ben, ce veau est destiné à un élevage très intensif, à des transports longs, quasiment dès sa naissance, et à un élevage dans des bâtiments, de façon très industrielle, très intensive. Donc,
tu veux dire que dans le cahier des charges bio, il y a rien, relatif, justement, à ce veau qui naît,
Bah, c'est là en fait qu'il y a un peu un non-sens. C'est que même quand t'es dans une exploitation bio, tu vas faire naître tes veaux, tu vas les garder une dizaine de jours sur ta ferme bio, mais ensuite ils vont être montés dans un camion et envoyés vers une filière d'élevage de veaux dits de boucherie, qui est une filière conventionnelle. Il n'y a pas de filière bio sur ces élevages là. Donc en effet, pour répondre à ta question, il y a des animaux qui sont issus d'exploitations bio, et même de façon très régulière et généralisée dans la filière laitière bio aujourd'hui, qui sont destinés à la filière conventionnelle derrière. Il y a quand même des veaux bio, mais en matière de viande, ils sont plus souvent issus de la filière dite allaitante, c'est-à-dire c'est une filière complètement indépendante de la filière laitière, qui elle produit des animaux pour leur viande. Et nous, ce qu'on a voulu faire avec la Bible, justement, c'est imaginer une filière et même une ferme type sur laquelle on puisse produire du lait d'une part, mais d'autre part où les petits veaux qui naissent pour permettre cette production laitière ne soient pas considérés comme des déchets, mais plutôt comme des animaux que l'on peut élever à la ferme dans le bien-être animal et pour produire de la viande également.
Je comprends. Là, ce que tu nous expliques, ça concerne essentiellement les vaches. Est-ce que le constat est similaire pour les chèvres et les brebis ?
Absolument. C'est vrai que nous, fallait faire des choix et fallait s'atteler à une filière en particulier pour commencer. Mais le problème est tout aussi existant dans les filières brebis et chèvres, puisque les petits agneaux et les petits chevreaux qui naissent, c'est exactement la même logique. Hein. Ces animaux doivent naître pour déclencher la production laitière de leur mère. Et ces petits animaux sont malheureusement parfois destinés à une destinée encore plus dure, parce que par exemple en France on consomme très peu de viande de chevreau, donc c'est des animaux qui soit sont tués assez vite à la naissance carrément, ou sont envoyés très jeunes aussi vers des filières intégrées et souvent à l'étranger, donc vers des pays où ils vont être engraissés et consommés, des pays qui ont plus l'habitude de consommer cette viande quoi.
Donc ça veut dire qu'on a en plus le stress de l'animal lié au fait qu'il va être déplacé pendant de nombreux kilomètres pour être ensuite engraissé derrière.
Absolument. Sans vouloir faire trop de verser dans la sensiblerie, il faut s'imaginer quand même que ce sont des animaux qui ont, là, dans le cas des veaux, par exemple, entre 10 et 15 jours de vie quand ils sont transportés. Donc c'est vraiment des nourrissons, de purs nourrissons qui ont été séparés de leur mère après quelques heures de vie et qui sont mis avec plein d'animaux qu'ils ne connaissent pas dans des camions, sur des transports de plusieurs heures, avec des environnements qu'ils ne connaissent pas, à être chargés, déchargés, etc. Donc c'est plein d'événements hyper stressant et hyper particulier et spécifique qui leur arrive à un âge qui est vraiment un âge, encore une fois, de nourrisson. J'aurais utilisé ce terme-là, quoi.
Ouais, bien sûr. Du coup, à partir de ce constat, qu'est-ce que tu as mis en place au sein de la Bible ? Est-ce que déjà, tu fais partie de ces pionniers qui ont pris conscience de ça et qui ont donc fait en sorte que la filière ne se structure pas de cette façon-là ? Ou tu n'es pas le seul et cette démarche alternative, elle existe aujourd'hui ?
Alors, je dirais pas qu'on est pionnier. Enfin, je pense qu'on l'est d'une certaine façon à la Bible, puisqu'on est les premiers vraiment à construire une filière qui soit structurée et dite filière plus longue, c'est-à-dire qui puisse fonctionner au-delà du pur très très local et au-delà de la vente directe simple. Donc, en ça, je pense qu'on est pionnier. Après, le fait de se dire, tiens, les veaux laitiers qui naissent dans l'exploitation laitière, ce serait bien de les valoriser à la ferme et dans le bien-être animal, évidemment pas les premiers à y avoir pensé, et beaucoup de gens avec qui on échange, beaucoup d'éleveurs qu'on va rencontrer pour leur proposer de mettre en œuvre notre cahier des charges nous disent, mais en fait ce que vous nous proposez, c'est de mettre en œuvre la cohérence de ce qu'on faisait avant, de ce que faisaient nos grands-parents, quoi. C'est d'être sur une ferme, sur une unité de production où on n'envoie pas des choses à gauche et à droite, on essaie de tout valoriser de la manière la plus cohérente, la plus respectueuse possible. Donc on n'a pas inventé cette notion de valoriser les veaux de la filière laitière, mais on est les premiers en ça qu'on veut vraiment structurer cette filière-là, et on veut vraiment aussi avoir cette grosse notion de pédagogie, d'explication d'explication aux consommateurs qui aujourd'hui ne connaissent pas bien cette problématique et ne serait-ce que le fait qu'un veau doit naître pour déclencher une production laitière. Quoi. Donc on est très attaché à ça.
Mais sur ce point-là, justement, je m'interroge, est-ce que c'est possible d'avoir du lait éthique ? C'est-à-dire, il me semble que de toute façon, et tu l'as répété à plusieurs reprises, il faut de toute façon une insémination à un moment ou à un autre. Dans la nature, si l'homme ne faisait pas cette insémination, comment ça se passerait ?
Absolument. Moi, l'insémination artificielle, c'est quelque chose qui fait partie de notre, enfin, qu'on régule par notre cahier des charges. On encourage forcément les éleveurs avec lesquels on travaille à travailler à ce qu'on appelle en monte naturelle, c'est-à-dire avoir un taureau à la ferme qui insémine de façon naturelle les vaches. C'est vrai que c'est un vrai sujet, moi, qui me pose beaucoup de questions aussi, l'insémination artificielle, de dire on utilise vraiment la vache comme une machine à produire du lait, on l'insémine tous les ans. En plus, il faut savoir que là, on parle beaucoup des veaux, mais il faut savoir aussi que les vaches laitières, on leur impose un rythme de production qui est hyper fatigant du point de vue physiologique. Donc, cette notion d'insémination artificielle, c'est vrai qu'elle pose question, c'est vrai qu'elle est tournée vers une production de toujours plus de lait. Et je pense que c'est ça qui est intéressant dans la question que tu poses, c'est de se dire... Est-ce qu'on ne devrait pas repenser, retravailler notre rapport au lait et aux produits laitiers et se dire qu'en fait c'est vraiment un produit trésor, quoi. C'est vraiment un produit très très noble, très spécifique, et de pas se dire j'en mange à longueur de journée du beurre, du fromage, du lait, etc. Essayer d'avoir cette pleine conscience quand on consomme ce produit-là de la valeur de ce que ça a. Et peut-être, comme on le fait de plus en plus pour la viande aujourd'hui, se dire je vais manger peut-être des produits laitiers une fois par semaine, deux fois dans la semaine, mais essayer d'avoir cette prise de recul à chaque fois que j'en consomme.
Et c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'on n'y est pas du tout. Autant sur la viande, il y a une vraie prise de conscience de l'impact environnemental de l'élevage, de l'impact en termes de bien-être animal, etc. Autant sur le lait, pas du tout. Il y a encore beaucoup de végétariens qui n'arrivent pas à se passer de ce produit, et beaucoup de personnes qui n'ont pas conscience de toutes les conséquences du fromage. Moi, personnellement, d'ailleurs, j'ai pris conscience récemment que, en fait, manger du fromage avait probablement quasi le même impact que manger de la viande.
Absolument. Je pense que c'est, encore une fois, c'est un gros, gros travail de pédagogie. C'est que quand on a le verre de lait dans la main ou le morceau de fromage, on ne voit pas moi, comme je le dis souvent, quand on consomme du lait, on consomme des veaux. Ou derrière chaque verre de lait se cache un veau qui est né quelque part. Et ça, c'est quelque chose c'est un lien de cause à effet que l'on fait pas forcément de façon hyper immédiate et directe quand on consomme nos produits laitiers. Et c'est là où on en revient toujours à la même chose, c'est de l'éducation, de la pédagogie, c'est savoir expliquer ça aux gens. C'est tout le défi vraiment de la Bible aujourd'hui, c'est qu'on puisse, au-delà de la communication et du marketing, j'allais dire au sens commercial du terme, c'est réexpliquer aux gens le contenu de leur assiette, quoi. Et comme tu le dis, sur la viande, les gens commencent à mieux comprendre, ils commencent aussi à comprendre la problématique de l'abattage à la ferme, etc. Mais sur la partie produits laitiers, c'est pas encore hyper clair pour eux. Donc en effet, je pense que c'est quelque chose qu'il faut rabâcher, répéter, vulgariser un maximum.
Est-ce que toi, tu proposes de l'abattage à la ferme ?
Alors, c'est un projet sur lequel on travaille, en effet, ouais, c'est quelque chose, En matière de bien-être animal, comme je te disais tout à l'heure, on peut rentrer par plein de portes pour essayer de faire avancer le schmilblick. Il faut en choisir certaines pour démarrer. Donc là, on commence par structurer notre filière de valorisation des veaux laitiers. Mais effectivement, l'abattage à la ferme, c'est un sujet qui me tient très à cœur. Quand on parle avec les éleveurs, avec nos concitoyens, etc., on sent que c'est quelque chose qui a du sens pour les gens. Donc, oui, on a ce projet-là dans les cartons. On essaye d'avancer dessus. C'est quelque chose qui prend du temps, mais je pense que dans la logique de la filière qu'on est en train de monter, si on pouvait dire que nos animaux sont nés, élevés et abattus au même endroit, ça aurait vraiment beaucoup de sens, et on bouclerait cette boucle vertueuse qu'on est en train d'essayer de démarrer, quoi.
Et par rapport à cette boucle vertueuse, une des questions, c'est évidemment la rentabilité. Comment on fait aujourd'hui pour être rentable si on n'enlève pas le veau de sa mère, si on n'oblige pas la vache, la chèvre ou la brebis à produire tant de quantité de lait par jour, est-ce que c'est possible ?
Je pense que la réponse est la même que le terme que j'employais à l'instant tout à l'heure, c'est de la pédagogie. En fait, je pense que ça part beaucoup aussi du consommateur, des filières et des opérateurs de filières comme nous, c'est d'accepter tout simplement, en fait, de changer nos modes de consommation sur les volumes qu'on consomme, d'accepter un surcoût sur les produits que l'on consomme. Et à partir de ce moment-là, on peut structurer les choses autrement pour, par exemple, le lait que les veaux vont consommer dans nos fermes au pied de leur mère, parce que dans nos fermes, les veaux ne sont pas séparés de leur mère, ou sont en tout cas sous une présence maternelle de mère nourrice, ce lait-là, on va le rétribuer, enfin, je m'exprime mal, le manque à gagner du lait qui ne sera pas collecté par l'éleveur parce qu'il aura été donné aux veaux, nous on va le payer à l'éleveur à la sortie en lui achetant le veau. C'est-à-dire qu'il faut, en fait, il faut accepter de revoir les équilibres économiques d'une ferme. Il faut accepter de payer des animaux, des veaux ou des entre-deux plus chers quand on les achète sur pied, pour pouvoir ensuite les vendre plus cher, pour pouvoir aussi dire aux consommateurs, vous allez peut-être en consommer un peu moins, mais de meilleure qualité. Donc c'est toute cette chaîne de valeur, en fait, qu'il faut pouvoir retravailler pour répondre à ta question, pour que ça ait un sens économique et économiquement ça se tienne. On peut pas, en d'autres termes, je pense qu'on peut pas dire qu'on va toujours poursuivre cette course au prix le plus bas, à toujours avoir les produits dès qu'on les veut, un peu dans ce côté tellement facile de nos sociétés actuelles où tout est immédiat. Je pense qu'il faut un peu sortir de ça, remettre la valeur, la vraie valeur sur les produits, se dire que le prix qu'il y a sur les produits laitiers et les viandes aujourd'hui dans les supermarchés, c'est pas leur vraie valeur. C'est un prix qui est trop bas pour ce que ça représente. Et à partir de là, faut commencer à retravailler. Et puis, nous, en tant que consommateurs, se dire, bah, je vais peut-être pas manger deux fois de la viande dans ma semaine, mais une seule fois, parce qu'il y a des animaux derrière et parce que je vais en manger de meilleure qualité.
Mmh. Mais est-ce qu'il faut forcément enlever le veau de la mer? Enfin, c'est pas ça ma question. Est-ce qu'il faut forcément tuer le veau derrière?
Alors, c'est une autre question aussi. C'est vrai que c'est, on n'est pas obligé de tuer l'animal à l'âge de, donc un veau, c'est un animal qui a moins de 8 mois. Nous, ce qu'on fait beaucoup à la Bille Bleue, c'est qu'on commercialise la viande que l'on appelle d'entre-deux. Donc, c'est des animaux qui ont entre 8 et 12 mois, qui sont encore des jeunes animaux, mais qui ont atteint l'âge du sevrage. Le but pour nous, c'est déjà que ces animaux aient justement été sevrés de façon naturelle et profité de leur vie et n'aient pas eu d'épisodes choquants jusqu'au moment de leur abattage. Donc, ça, c'est très important. Donc les éléments de réponse, c'est ça, c'est que non, on n'est pas obligé de tous les tuer très tôt. En revanche, on revient maintenant sur la notion économique. C'est vrai qu'un animal qu'on veut emmener jusqu'au stade de bœuf, qu'on appelle de bœuf, c'est un animal qu'on va abattre à 30-36 mois. Donc faut se dire que ne serait-ce que sur la taille du terrain qu'a un éleveur pour élever ses animaux, sur l'argent immobilisé, entre guillemets, que représente un animal qui reste 36 mois sur ta ferme, du point de vue des équilibres économiques pour l'éleveur, c'est quelque chose qu'il faut aussi repenser. Si tu gardes tous les veaux et que tu les emmènes à 36 mois, tu vas avoir un gros déficit de revenus sur ces 36 mois-là, quoi. On parle de blocage de trésorerie, en quelque sorte, quoi. Mmh. Donc il y a toute cette réflexion de se dire, bah, peut-être qu'on va produire un petit peu de veau, un peu d'entre-deux, un peu de bœuf, qu'on va étaler un petit peu comme ça les types d'élevage, pour effectivement ne pas être en permanence dans cette spirale infernale de il faut produire du lait, il faut abattre des veaux très tôt, etc. Je pense qu'il faut aussi repenser encore une fois la structuration des choses, quoi.
Oui, bien sûr, parce que quand on parle d'éthique, on se pose forcément la question de est-ce qu'il faut manger des petits.
Alors, c'est une grande question. Moi, j'entends très bien quand cet argument m'est donné. Moi, j'estime que, et ça n'engage que moi, que un animal, à partir du moment où il est respecté toute la vie qu'il a eue et qu'il est abattu sans aucune souffrance, sans anticipation et sans peur, que ce soit un animal qui ait 8 mois ou qui en ait 36 ou qui en ait plus, il y a pas de douleur supplémentaire ou de, j'ai envie de dire, l'animal, une fois qu'il est abattu, il est plus là pour savoir rétrospectivement s'il aurait pu vivre plus longtemps ou non. Donc on en vient presque à des réflexions un peu philosophiques. Je sais pas si c'est plus cruel de tuer un bébé que tuer un adulte, mais en effet, c'est cette question peut avoir du sens. Moi, ce qui est vraiment très important pour moi et pour ce que j'essaie d'insuffler à la Bible, c'est que pendant leur durée de vie, ces animaux n'aient aucune souffrance, aucune peur, aucune détresse, aucune anticipation, et surtout qu'on puisse subvenir leurs besoins physiologiques, comportementaux. En gros, qu'ils aient une vie complètement normale et confortable. Jusqu'au moment où, en effet, oui, on les abattra pour leur viande. Mais voilà, ce qu'il faut, c'est leur donner des conditions de vie les plus confortables possibles tout au long de leur vie. Et ça, il y a déjà un énorme défi sur ça, quoi.
Oui, c'est sûr. D'un point de vue environnemental, quand même, ce que tu dis pose question. C'est sûr que d'un point de vue éthique, je comprends ton argument qui est de dire, bon, au final, si on respecte l'animal, est-ce qu'il y a vraiment une différence primordiale? D'un point de vue environnemental, en revanche, manger du veau a un impact plus fort que manger du bœuf parce qu'il y a moins de viande derrière et que il y a tout le processus derrière d'avoir inséminé, etc., une vache. Donc moi, ça me pose aussi cette question-là. Je voudrais aussi évoquer avec toi, de manière générale, d'un point de vue environnemental, la question de l'adaptation de la filière. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui que la filière laitière est un peu en retard par rapport au reste?
Par rapport à quoi? À d'autres filières, tu veux dire?
Ouais, ou... par rapport notamment peut-être, je sais pas si par rapport aux filières, la filière de la viande, c'est plus en retard, mais en tout cas, est-ce que c'est parce qu'on a des grands groupes qui sont pas tellement engagés sur cette question-là?
Bah, Ouais, en effet, je pense que, sans rentrer trop dans les cours d'histoire, mais on est rentré depuis l'après-guerre, depuis l'après-deuxième guerre mondiale, dans un système de production où il fallait quand même nourrir les masses, fallait essayer de donner suffisamment d'alimentation pour nourrir toute la France. Donc ça a donné naissance à des systèmes de production, que ce soit en laitier ou en allaitant, donc dans le domaine du lait ou de la viande, à des systèmes productivistes, tournés vers un maximum de productivité. Et petit à petit, on fait tourner ces systèmes-là, et petit à petit, on commence à en oublier le bien-être des animaux qui sont derrière, quoi. Donc, je pense qu'aujourd'hui, en effet, on hérite de tout cet héritage-là, justement, et que, les énormes boîtes que tu as citées un petit peu en entrée de la filière laitière et même de la filière viande, sont assises et installées et fonctionnent sur un modèle qui n'est pas celui qui respecte le plus les animaux. Donc, en effet, je pense qu'on s'est petit à petit détaché de la notion de on est quand même en train d'exploiter des animaux, des êtres vivants sensibles au profit de on a juste d'essayer de produire un maximum de volume. Mmh. Et ça revient à ce que je te disais tout à l'heure, faut aussi que le consommateur accepte que on peut pas aller jusque sans arrêt dans une course au prix le plus bas permanente. Il faut peut-être accepter que on stoppe la machine, on essaye de repenser les systèmes de production, c'est ce qu'on essaye de faire à la Bible bleue, mais là c'est vraiment retourner la table et repartir quasiment de zéro. Donc pourquoi tu parles de ce retard-là aujourd'hui ? Je pense que c'est tous ces gros opérateurs, c'est difficile pour eux avec toutes les investissements et toute la structure qu'ils ont en place de dire stop, on change tout et on change tout le modèle quitte à perdre peut-être moitié de notre rentabilité quoi. Ça demande beaucoup de conviction. Et je pense que c'est ça qu'on a aussi à la Bible.
En comparaison, combien sont vendus tes veaux par rapport à un veau industriel et ton lait ?
Alors, comparé à du veau bio classique, comparé à du veau bio, on doit être dans les entre 20 et 30% plus cher que du veau bio que tu peux trouver en commerce. Et les produits laitiers, on doit être dans les 10 à 20% plus cher que des produits bio et fermiers comparables. Donc il y a un surcoût au bien-être animal, ça, il y a aucun doute de ça. Il y a aucun doute sur ça. Il y a un surcoût aussi lié au fait qu'on est encore une petite structure, qu'on a des charges fixes qui sont pas les mêmes que d'autres. Maintenant, je pense que nos consommateurs le comprennent très très bien. Ils consomment nos produits, ils y reviennent régulièrement aussi. Donc je pense que encore une fois, c'est la réflexion qu'on met derrière le prix qui est importante.
Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer, parce que tu nous dis c'est entre 20 et 30% plus cher que le label bio, quelle est la différence entre ce que tu fais toi et ce qui est obligatoire en bio ?
Ouais, comme on disait tout à l'heure, en bio en fait nous on parle beaucoup des veaux mâles parce que les veaux femelles qui naissent dans les exploitations laitières, une partie de ces veaux peuvent servir à renouveler le troupeau laitier, à faire des vaches qui vont produire du lait à nouveau derrière. Donc pour ces ce qu'on appelle des génisses, ces génisses là, il y a un certain nombre de règles puisqu'elles sont vouées à rester dans la ferme, il y a un certain nombre de règles et la réglementation est en train d'évoluer un peu pour le mieux en bio sur ces animaux-là actuellement. Après, pour les veaux mâles, qui sont donc ces veaux-là qui sont destinés à la filière veau de boucherie très industrielle, y a pas de règles spécifiques à la bio. Ces animaux qui vont rester juste 10 jours sur leur élevage de naissance, et à partir de là, ils sont prélevés par une coopérative qui les achète, et ils quittent complètement le cahier des charges bio. Donc nous, pour te donner un peu une vision, et j'invite les auditeurs à visiter notre site web ou nos réseaux sur lesquels on peut vraiment trouver des explications un peu imagées de ça, parce que ça demande à être expliqué. Là où aujourd'hui ces petits veaux vont être transportés, séparés de leur mère très précocement, après quelques heures de vie, ils vont être isolés dans des cases individuelles pendant une dizaine de jours, ensuite transportés dans des camions à plusieurs reprises, emportés dans les centres d'allotement, dans les centres d'engraissement, etc. Donc toute une série de transports et de mélanges d'animaux, d'environnements nouveaux. Nous, on stoppe toute cette chaîne dès le début. On dit, on laisse le veau avec sa mère ou avec une mère nourrice dès la naissance. Et à partir de la naissance jusqu'à ses 7 mois, l'animal ne quitte jamais sa mère ou cette vache nourrice, qui est donc une autre vache qui le nourrit au pied.
Ça te pose pas problème pour le veau que ça soit une autre vache que sa mère ?
Alors, c'est une bonne question. C'est vrai qu'on a regardé de très près un système dans lequel on pourrait laisser tous les veaux sous leur mère biologique. Nous, dans notre système à la Bible actuellement, on a 50% de nos veaux qui sont sous leur mère biologique et 50% qui sont sous une vache dite nourrice. Tout simplement parce qu'il a fallu aussi pour commencer, au moins faire des compromis sur certains éléments pour pouvoir concilier l'aspect économique et l'aspect bien-être animal. Donc en effet, le moment de séparation de certains veaux avec leur mère est un moment difficile. Vaut mieux qu'il soit plus précoce que trop tardif d'ailleurs, vaut mieux que ce soit assez tôt que plus tard. C'est quelque chose qui peut être amélioré, c'est quelque chose qu'on peut éventuellement faire autrement, mais l'expérience montre que les animaux, une fois qu'ils ont une présence maternelle comme une nourrice après quelques jours de vie, l'adoption se passe en général très très bien, et les animaux ont cette présence et ce pi pour les nourrir qui est hyper vertueux et bénéfique pour eux, quoi.
Mais en tout cas, dans le cahier des charges bio, on a quand même, par rapport, j'imagine, par rapport à l'absence de cahier des charges, certains critères sur le bien-être animal.
Alors il y en a sur ce qu'on appelle le chargement, le nombre d'animaux qui sont au mètre carré, l'accès à l'extérieur, l'organisation du bâtiment, l'alimentation des animaux, des choses comme ça, le nombre de traitements antibiotiques et antiparasitaires par an. Donc il y a toute une série de critères et je suis pas du tout, attention, faut merci de me poser la question, pas du tout en train de remettre en question le cahier des charges bio, puisqu'on travaille de comme notre seuil de travail, notre plancher de travail, c'est déjà d'aller voir des éleveurs bio et de travailler avec eux. Donc nous, ce qu'on veut être, c'est une surcouche à la bio, une surcouche bien-être animal à la bio, mais on met pas du tout en question ce certificat, ce label-là, qui pour moi est quand même une super avancée quand même en matière d'agriculture et d'élevage, quoi. Mais voilà, pour répondre à ta question, nous, on veut aller plus loin que ce qu'impose le cahier des charges bio sur l'élevage des animaux. Et là où je te disais, je t'ai décrit un peu ce que devenaient les veaux qui vont en filière veau de boucherie. Nous, encore une fois, les veaux, ils sont sous une mère ou sous une nourrice, accès libre au pis toute la journée. Donc c'est pas une tétée le matin, une tétée le soir, c'est accès libre au pis toute la journée, au contact direct de cette vache, ce qui est pas le cas, y compris dans des filières de veaux bio allaitants. Accès libre au pâturage dès que les vaches vont au pâturage. Et c'est pour ça que je le signale que la viande de nos animaux est beaucoup plus rose foncée que de la viande de veau classique qu'on peut trouver. Tout simplement parce que nous, on ne carence pas nos animaux en fer, on les empêche pas de manger du fourrage et de l'herbe. Et c'est ça qui donne une couleur super rouge aux animaux.
Quoi, ils carencent en faire les animaux.
C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Maintenant, on a beaucoup habitué le consommateur. On revient au modèle dont on parlait tout à l'heure pour essayer de produire de façon la plus rationalisée possible. Ça faisait sens d'un point de vue économique, de prendre des petits veaux, de les mettre dans des bâtiments, de leur donner du lait en poudre à manger, sans enrichir particulièrement leur alimentation, sans leur donner accès à l'extérieur. C'était pour vraiment rationaliser, intensifier au maximum la production. De ce fait-là, la viande des animaux est restée très blanche parce que ces animaux qui étaient carencés en fer parce qu'ils mangeaient pas assez d'herbe. Et du coup, le consommateur a été habitué à se dire la viande de veau, c'est de la viande blanche. Et en fait, c'est quelque chose aussi qui nous a été martelé dans la tête depuis des années, alors que c'est un non-sens. Un animal doit avoir la viande rose foncée, quoi.
C'est intéressant ce que tu dis. Ça veut dire que quand on va chez son boucher ou même si on fait ses courses dans un supermarché, avoir de la viande de veau blanche, c'est plutôt un critère de non-qualité.
Oui. Je te le confirme. Comme on le dit souvent, donc nous on fait ce qu'on appelle du veau de plein air. Et comme je le dis souvent, si la viande est claire, c'est pas du plein air. C'est des animaux qui n'ont pas été en plein air, ou en tout cas insuffisamment. Dans le meilleur des cas, ils en ont peut-être eu, dans certains cas, de veau bio, accès à une courette extérieure, mais rarement accès au pâturage libre, comme nous on le fait à Bible. Donc effectivement, c'est plutôt un signe de non-qualité. Et on a un énorme travail, non seulement, comme on le disait tout à l'heure, avec des consommateurs pour leur expliquer, non, la viande d'un veau qui a été heureux, qui a une vie normale, c'est de la viande rose foncée. Mais on a aussi ce travail à faire avec des bouchers qui, malheureusement, nous disent, écoutez, nous, on entend, on comprend ce que vous nous dites, mais ça fait 40 ans qu'on vend de la viande rose claire ou blanche à nos clients et ils vont pas acheter si on leur met de la viande rouge. Donc il y a vraiment tout ce travail de déconstruction et de reconstruction à faire. Et ça, c'est peut-être le défi numéro un qu'on a aujourd'hui, quoi.
Est-ce que vous formez du coup les bouchers ou ce sera à venir?
On essaye. Déjà, on échange avec eux. L'idée de la formation peut être intéressante. Maintenant, je pense que ça dépend de l'interlocuteur qu'on a en face de nous. Il y en a... Voilà, je pense que...
Non, je pense à ça parce que j'ai interviewé un monsieur qui travaille justement dans la filière porcine et qui disait on a absolument besoin de former dans les rayons de supermarché notamment les raisons pour lesquelles notre porc est plus cher. Parce que on a que 1% des porcs élevés en plein air, que les nôtres ils vivent en liberté et qu'il faut absolument que le boucher puisse expliquer la différence entre les différents porcs qu'ils vendent.
Absolument. Et l'exemple du porc que tu prends est hyper intéressant parce qu'on a la même problématique aujourd'hui, c'est que un beau jambon d'un animal qui a vécu dehors et dans le mode de transformation et de préparation du jambon a été naturel, sans addition, sans quoi que ce soit, ça va être un jambon qui va être gris, qui va avoir une couleur pas du tout rose comme celle à laquelle les consommateurs sont habitués. Donc là aussi, dans la filière porcine, il y a ce problème de... On nous a habitués à manger du jambon rose, mais le vrai jambon, ça n'est pas rose, c'est quasiment gris et c'est succulent comme produit. Mais faut avoir la curiosité et les informations pour aller vers ces produits-là, quoi.
Oui, c'est clair. Je voudrais qu'on parle de cette monodiversité que l'on trouve chez les vaches laitières notamment. Alors je ne sais pas si c'est la même chose du côté des chèvres et des brebis, si on mange qu'une seule race ou enfin si on, en tout cas on a accès au lait de une seule race. Quelle est ta vision, toi ? Qu'est-ce que tu en penses ça du fait qu'on a essentiellement des prix Holstein, que ça soit dans nos assiettes j'imagine, mais aussi en lait.
Ouais, alors c'est une super question, merci. Moi, ça pose la question de la sélection génétique, de la diversité génétique dans les troupeaux. Encore une fois, on est sur un modèle qui vise à produire un maximum, par exemple dans l'exemple de la Prix Holstein et de la production laitière. Donc la Prix Holstein étant, comme tu l'as dit, une race de vache très productive du point de vue laitier, mais beaucoup moins performante en termes de viande. En fait, la filière a dit, bah nous, il nous faut les vaches qui produisent le plus de lait dans les meilleures conditions, des vaches résilientes, et la Prix Holstein remplit toutes les cases pour ça. Donc, elles ont ces Holstein, ces races Holstein ont été hyper sélectionnées, insémination sur insémination sur insémination, ce qui, oui, fait que tu as des vaches qui produisent des dizaines de 10 000 litres de lait par an, ce qui est des volumes complètement délirants par rapport à la physiologie de ces animaux-là. Mais ça sélectionne aussi des tares génétiques, ça sélectionne des problèmes par ailleurs, et ça réduit tout simplement le brassage génétique qui se fait normalement de façon naturelle. Donc nous, on a deux discours à la Bible, c'est d'une part de favoriser des races dites mixtes, c'est type la race normande par exemple, qui savent produire du lait, mais qui aussi, d'un point de vue boucherie, vont faire de la viande de qualité, ce qui nous permet nous de donner vie à notre filière mixte qu'on est en train de créer à la Bible, filière qui à la fois produit du lait et de la viande. Donc d'une part choisir des races à performance mixte, et d'autre part croiser, faire du croisement régulier, ne pas être toujours dans cette recherche permanente de gagner des points de production, des points de taux, des points de voilà, c'est encore une fois cette fuite en avant qui est hyper productiviste. On veut essayer de revenir de ça en disant oui, peut-être on va avoir moins de production, mais peut-être qu'on paiera d'autres choses autrement pour que les éleveurs s'y retrouvent toujours.
Mais j'imagine que d'un point de vue santé, ça pose question aussi, parce que qui dit absence de croisement génétique et donc sélection, comme tu expliques, pour arriver à cette Prix Holstein hyper, hyper rentable, veut dire lait de moins bonne qualité, avec moins de nutriments, j'imagine, moins d'intérêt pour la santé, non ?
Alors, ça dépend. Tu peux sélectionner aussi, en fonction de ces critères génétiques-là, certains taux que tu vas avoir dans le lait. Donc, tu peux sélectionner des animaux pour avoir des races comme la race Jerseyaise, par exemple, pour avoir des taux de protéines et de gras dans ton lait qui sont beaucoup plus importants. Tu peux sélectionner sur le volume que tu veux produire. Mais en effet, à la sortie, quand tu vas sélectionner, par exemple, le volume, tu vas peut-être le faire à la défaveur des taux de protéines et de graisse. Et donc, tu vas avoir un lait moins riche. Tu vas aussi chercher à pousser tes vaches au maximum du point de vue alimentaire pour qu'elles produisent toujours plus de lait. Donc tu vas leur donner un régime très riche en énergie qui, du point de vue oméga-3 notamment et plein d'autres nutriments, sera pas suffisamment riche. Donc en effet, tu vas produire un lait un peu creux, j'allais dire, et pas aussi riche nutritionnellement qu'une vache qui mange de l'herbe librement dans sa pâture. Et je le dis en passant, nous, les fromages que l'on produit, c'est les fromages faits avec le lait de vache qui sont nourris 100% à l'herbe, pas d'ensilage, pas de concentré, de choses comme ça. Les concentrés, en plus, souvent, il y a la problématique de leur provenance géographique, parfois à l'autre bout du monde, Brésil, États-Unis, etc. Donc
cause de déforestation dans ces pays.
Absolument, absolument. Donc tu vois, à chaque élément, enfin à chaque question de notre échange, on relève un petit clapet en plus qui nous dit ah, il y a cette problématique là, et il y a celle là, et il y a celle là, et il y a celle là, et c'est encore une fois ça qui, enfin tout ce défi là d'essayer de prendre ce recul sur quand on a le verre de lait dans la main ou le morceau de viande dans l'assiette, qu'est-ce qui s'est passé avant pour qu'on puisse en arriver là. Et malheureusement, c'est pas toujours très joyeux.
Et il y a la question des antibiotiques aussi, je me dis, qui se pose, parce que une comparaison qui m'a fait sourire derrière moi, il se trouve que j'ai été mère il y a pas très longtemps et
félicitations.
Et que j'ai allaité ma fille, et quand on est une mère allaitante, on est très contrôlé d'un point de vue notamment des médicaments que l'on prend parce que ça passe dans le lait. Mais en fait, il me semble que ça doit être la même chose du côté des animaux, et que si on est dans un élevage intensif, forcément, on va du coup manger peut-être les médicaments qui ont été donnés à ces vaches-là, alors qu'on se pose pas la question.
Absolument. Heureusement, parce que je vais, il faut être clair, il y a une réglementation qui existe, hein, qui est très très claire en France comme dans l'Union européenne. C'est que il y a notamment sur les traitements qu'on donne à nos vaches pour une raison X ou Y pendant leur vie d'élevage, il y a ce qu'on appelle des temps d'attente, c'est-à-dire qu'entre le moment où tu vas traiter la vache et où tu vas la traire à nouveau pour collecter son lait, il y a des temps qui vont passer pour que tu t'assures que tous les résidus qui peuvent passer dans le lait seront éliminés, pour pas qu'ils ne finissent dans nos bouteilles de lait.
D'accord.
Donc ça, soyons rassurants pour les auditeurs, il y a voilà, il y a une réglementation qui protège ça, même dans les élevages qui utilisent de façon trop intensive les antibiotiques.
Okay.
En revanche, l'usage intensif des antibiotiques, encore une fois, pardon, mais c'est une rustine que l'on met sur des conditions d'élevage, des modèles et des structurations d'élevage qui sont, selon moi, pas les bonnes,
oui,
parce qu'on concentre trop les animaux, parce qu'on les pousse beaucoup trop fort, donc effectivement, ils développent des mammites, ils développent des inflammations, des infections, des choses comme ça. Et ben donc quand on pousse les animaux, au bout d'un moment, ils déclenchent ces maladies-là. Et qu'est-ce qu'on fait? On met des antibiotiques par-dessus. On a ensuite des résistances aux antibiotiques qui se développent. Donc on est encore une fois dans ce cercle vicieux absolument fou, quoi. Et encore une fois, moi je dis, reprenons les choses, retournons à table, remettons-nous à la base des choses, repensons l'élevage. Et nous, dans nos élevages, on a beaucoup des éleveurs avec lesquels on travaille qui n'utilisent plus du tout de façon systématique les antibiotiques. Alors que la norme aujourd'hui est, quand tu taries une vache, c'est-à-dire quand tu termines sa lactation, à la fin de sa période de lactation, de mettre systématiquement des antibiotiques, quoi.
Ah oui.
On est dans un usage très systématisé aujourd'hui des antibiotiques. Les veaux, pareil, qui sont enlevés de la ferme à 10 jours, dont je te parlais, ceux-là même que nous on sauve par notre filière, ils finissent dans les élevages très concentrés où ils sont traités largement aux antibiotiques. Pourquoi? Parce qu'ils sont les uns sur les autres, et quand on est sur les uns sur les autres, on se transmet des germes, on développe des maladies. Donc moi, j'ai toujours ce questionnement sur la façon dont on crée les mauvais systèmes de production, et on essaye de mettre des rustines les unes sur les autres pour essayer de faire tenir le truc, alors qu'en fait, faut reprendre le problème à la base, tout simplement.
Bah, c'est fou, notamment au regard de la pandémie actuelle, c'est que
absolument.
La prochaine pandémie, ça pourrait être très bien la bactérie multirésistante qui viendra d'un élevage ou ce type de choses, quoi.
C'est un très gros problème aujourd'hui, les résistances bactériennes notamment, qui sont de plus en plus importantes et très largement liées à un usage beaucoup trop intensif et pas mesuré des antibiotiques dans les élevages intensifs. Tu as tout à fait raison. Il y a un gros sujet sanitaire et même de santé humaine.
Bien sûr.
Vis-à-vis de ça. Et ce qui moi m'embête un peu dans mon côté un peu idéaliste, c'est que on doit en arriver au stade où c'est nous, l'espèce humaine, qui sommes menacés par ces problèmes-là, pour commencer à prendre conscience et changer nos manières de faire. Mais j'ai envie de dire, peut-être que aussi déjà pensons aux animaux qui sont dans les élevages et dans nos fermes. J'ai la sensation qu'on se sent concerné juste quand on est complètement acculé et quand c'est nous et ouais, directement ouais. Que ça a concerné. Je trouve ça un petit peu dommage de pas prendre des choses avec un peu plus d'avance, quoi.
J'ai l'impression que c'est typiquement l'être humain quand même.
Absolument. Ouais. Ouais.
D'un point de vue santé, je me posais la question quelle est la différence en termes de lait que l'on consomme. Est-ce qu'il faut faire une distinction entre le lait cru et le lait pasteurisé, voire le lait, on a un microfiltré, c'est quoi? On a plusieurs types de lait, c'est ça?
Ouais, il y a plusieurs façons de le traiter, en effet.
Et quelle est la différence en termes de santé, peut-être aussi d'un point de vue environnemental? Est-ce que c'est un bon critère de choisir le lait cru, par exemple?
Ouais, moi je suis absolument favorable au lait cru. On a beaucoup envie de... Il y a des pays comme les États-Unis, enfin ça dépend des États parce qu'ils ont un pays fédéral, mais aux États-Unis, le lait cru c'est presque le gros mot, terriblement dangereux. Attention, il y a des bactéries dedans, etc. Moi, je suis hyper partisan du lait cru. C'est un lait qui est plein de probiotiques, donc de bactéries qui vont être favorables à la défense de ton intestin. Quand tu vas les ingérer, elles vont participer à défendre ton corps, en fait, dans ton système digestif. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a de plus en plus peur des bactéries, on veut tout stériliser un petit peu, on veut tout maîtriser un maximum. C'est vrai que les industriels aussi, c'est beaucoup plus pratique et facile du point de vue technologique pour eux de tuer toutes les bactéries qui sont dans le lait pour ensuite faire de la transformation fromagère ou des yaourts, des choses comme ça. Tout est beaucoup plus contrôlé. Mais du coup, au passage, on y perd toute la variabilité des terroirs, des différents laits, des races d'animaux, etc. Donc, pour répondre à ta question, le lait cru, c'est pas un gros mot. Il faut savoir le consommer avec raison. Si certaines personnes sont fragiles, bien sûr, il faut savoir faire attention. Mais consommer du lait cru, c'est bon pour la santé. C'est bon aussi du point de vue gastronomique. Quand tu vas boire un lait cru, pas forcément même sortant du pis, mais un lait très riche d'une vache qui a bien mangé et que tu vas juste le refroidir un peu et te faire un bon verre de lait le lendemain, ça n'a rien à voir avec le lait stérilisé en brique de la grande distribution.
Ouais.
C'est comme boire de l'eau et boire un vrai produit qui a de la gourmandise, qui a du gras, ça n'a rien à voir. Donc encore une fois, ce côté thermisé, pasteurisé, stérilisé, ça rassure peut-être certains, mais encore une fois, on s'interdit une vraie valeur nutritionnelle et gastronomique qui est naturellement dans le lait, quoi.
Et du coup, ça paraît assez fou puisque nos enfants, par exemple, sont abreuvés de lait pasteurisé, industriel, voire même nos bébés quand on passe à du lait maternisé.
C'est à côté de ça, on se choque pas du tout quand notre enfant a son doudou qui a traîné toute la journée par terre et qui se oui. le met dans la bouche. On se choque pas une seule seconde. Mais alors attention, quand c'est du lait cru, non, c'est la grande peur. Donc, je pense qu'encore une fois, c'est de l'éducation. Il y a aucun jugement à avoir sur ça, mais c'est un peu des cases qu'on crée dans nos têtes et que malheureusement le marketing de grosses entreprises renforce un peu, ou les médias ou que sais-je renforce un peu. Je pense que ouais, il faut juste essayer de se reposer et de se dire bah les bactéries font partie de notre quotidien, que ce soit sur le doudou des animaux, dans le lait, nous quand on touche une table et qu'après on se gratte le nez, on faut pas trop le faire en ce moment apparemment. Voilà, je pense qu'il faut pas avoir cette peur là des bactéries. Voilà, juste des précautions de base suffisent à rester en bonne santé par ailleurs. Faut juste être vigilant.
Est-ce que d'un point de vue environnemental, le lait cru, c'est aussi un critère qui permet d'éviter les productions industrielles ?
Alors, à ma connaissance, je vois pas de lien direct entre les deux. Je pense que de toute façon, ce qui est clair, c'est que produire du lait thermisé ou pasteurisé, ça demande de l'énergie. Donc ça, c'est clair que ça demande une étape en plus dans ton processus de production.
Les industriels peuvent faire du lait cru, parce qu'il me semblait que justement, le lait cru, comme il nécessite une attention particulière pour qu'il ne développe pas non plus des germes pathogènes, ne correspond pas à l'industriel.
Bah c'est ça, c'est que l'industriel, comme on disait tout à l'heure, il essaye un maximum de, et on le comprend, il a une activité économique qui le justifie, il veut un maximum rationaliser, contrôler, avoir des processus reproductibles dans le temps. Donc effectivement, quand il stérilise son lait, il tue tout ce qu'il y a dedans. Donc il se retrouve avec un liquide effectivement qui a quelques valeurs nutritionnelles qui restent. C'est un lait qui est stérilisé. Ça lui permet d'être beaucoup plus reproductible dans sa façon de fabriquer son fromage, son yaourt, etc. Et d'avoir des durées de conservation beaucoup plus longues. Donc ça, il est clair que ça a du sens du point de vue économique, du point de vue logistique, du point de vue chaîne du froid. Enfin, je comprends la raison pour laquelle ils le font. Maintenant, voilà, pasteuriser, stériliser, c'est pas un gros mot non plus. Moi, je consomme certains de ces produits. Il y a une certaine praticité à ça. Maintenant, je pense qu'encore une fois, on peut consommer du lait cru de temps en temps. J'en ai pas hyper souvent non plus parce que je suis pas à la ferme à pouvoir en prendre hyper régulièrement. Mais quand j'ai la chance de pouvoir en avoir, bien sûr.
Ouais.
Et puis les fromages, moi, je les choisis toujours au lait cru parce que justement, il y a toute cette flore bactérienne dedans qui est hyper hyper bénéfique. Et puis bon. Je pense que j'ai ce biais un peu à vouloir toujours aller vers les choses les plus naturelles possibles. Donc voilà, moi je suis peut-être un peu spécial sur ça aussi, quoi.
Je voudrais en venir au conseil que tu peux donner au grand public de manière générale. C'est quoi ? Comment ils peuvent choisir justement aujourd'hui un lait de qualité, un fromage de qualité, une viande de qualité ? Qu'est-ce qu'il faut qu'ils regardent en premier ?
Alors, c'est vrai que c'est un énorme défi, quoi, parce qu'aujourd'hui, et la Bible bleue en fait partie de ça aussi, il y a tellement de nouveaux labels, de nouvelles promesses qui essayent d'émerger pour faire leur place et trouver une place commerciale dans le paysage, que c'est très difficile pour le consommateur. Moi, j'ai tendance à conseiller d'aller vers le minimum de transformation, vers des listes d'ingrédients les plus courtes possibles, autant que possible essayer de comprendre d'où vient le produit que l'on achète, essayer de privilégier les circuits, je suis pas très original, hein, mais privilégier les circuits courts si on peut, c'est-à-dire vraiment, moi j'aime bien ce côté de voir le, c'est pas possible dans toutes les grandes villes et je le reconnais volontiers, mais essayer de voir le producteur du produit qu'on est en train de consommer, ou de savoir qu'il y a eu un seul intermédiaire entre nous deux, de pouvoir tracer en fait d'où vient notre produit. Je pense que ça c'est important. Je dis pas qu'il faut que tout soit bio à 100%, mais je pense que des labels comme le label AB, la bio, c'est quelque chose qui est quand même un gage d'un minimum de qualité. Je pense que ça, c'est important. Et je pense, j'ai envie de te dire, de la curiosité, c'est essayer de juste se poser deux minutes, regarder les emballages. Maintenant, on a des applis qui nous aident à dire ça tu peux pas. Je pense qu'il faut aller un petit peu plus loin que ça, essayer de s'intéresser un petit peu. Donc voilà, curiosité, essayer de tracer, de comprendre le chemin de vie d'un produit.
Et dans notre consommation de lait, est-ce que justement il faut essayer de manger des laits un peu plus divers et peut-être pas manger que du lait de vache ?
Je pense que d'une manière générale, hein, la diversification alimentaire a du sens. Je suis pas un expert des teneurs nutritionnelles comparatives des différents laits, mais il est clair que je pense que ça a du sens de diversifier ses sources de lait comme on diversifie ses sources de légumes ou autres.
Que penses-tu des laits végétaux ?
Alors la première chose que je dirais, c'est que le terme de lait, je pense, un abus de langage en matière de boissons végétales. On dit plutôt, enfin, si moi tu me demandes, je dirais plutôt des boissons d'origine végétale, des choses comme ça, qui en effet ont souvent la couleur du lait, la couleur blanche du lait. Moi, j'en suis un grand consommateur parce que ça me permet de consommer moins de ce trésor dont on parlait tout à l'heure, qui est le lait de la vache. Je l'utilise dans certaines préparations spécifiques pour lesquelles j'ai envie d'avoir du lait de vache, par exemple. Mais les laits végétaux, enfin les laits végétaux, les boissons végétales, c'est quelque chose qui me paraît tout à fait bien. C'est produits qui viennent du monde végétal et donc qui permettent de diversifier nos sources d'aliments et puis d'aller chercher la boisson qu'on va mettre dans les céréales au petit déjeuner ou dans notre quiche, d'aller chercher dans le monde végétal et non pas dans le monde animal pour pouvoir manger. Donc je pense que c'est une manière de d'éclater un peu nos productions et de pas enfin nos consommations et de pas tout centrer sur le lait d'origine animale quoi.
Donc si je résume en tout cas du côté du lait, faire confiance quand même au label, et le label bio est un préalable, mais ça peut aller plus loin en connaissant son producteur, en allant direct ou en faisant du circuit court avec un intermédiaire du type Labi Bleu. Pour la viande, moi j'ai toujours du mal à me dire il faut aller chez le boucher parce que chez le boucher il y a beaucoup de viande industrielle. En tout cas, la couleur de la viande est un bon signe. Poser des questions aussi à son boucher, j'imagine.
C'est beaucoup ça. Je pense que là, je lui dis, poser des questions et encore une fois, essayer de, après, au début, le process n'est pas facile, mais, de poser des questions, d'essayer de comprendre comment a été fabriqué son produit, de gratouiller un peu sur, pas juste accepter qu'on nous verse un produit comme ça, mais gratouiller, c'était de comprendre ce qu'il y a derrière. Voilà. Au début, c'est un process qui demande un petit peu de réflexion, mais après, ça devient naturel et ça devient un mode de consommation plus facile. Et puis, se renseigner, parler, voilà.
Et se renseigner, réduire notre consommation.
Et puis ça, c'est voilà, tu fais bien de le dire. Je pense que je parlais à l'instant de diversification alimentaire, des laits végétaux, des laits animaux, de la viande, l'intérêt des légumineuses en termes de protéines, par exemple. On peut aller chercher plein de protéines dans le monde végétal et faut surtout pas se priver de ça. On peut avoir des profils, on peut trouver tous les acides aminés dont on a besoin dans le domaine végétal si on le souhaite. Diversifier, et puis manger sain, manger frais. C'est des choses qui en fait sont hyper simples, mais voilà, ça demande juste un moment de se poser, et c'est ça la Bible bleue, c'est la terre vue de l'espace, c'est prendre un peu de recul sur les choses et se dire attends, est-ce que ma manière de consommer aujourd'hui, ça je pourrais le faire autrement, d'où vient ce produit, voilà, se poser, prendre du recul, et je pense que c'est déjà un super point de départ pour tout le monde ça.
C'est quoi l'avenir pour la Bible bleue?
Écoute, là, on a lancé nos viandes, c'est nos premiers fromages. On a des retours super positifs, donc ça, on est très très content. On espère pouvoir déployer un maximum encore avec nos différents clients et puis s'étendre sur toute la France. On est surtout implanté dans le Grand Ouest aujourd'hui. Et le beurre, c'est vrai que c'est un sujet aussi parmi les produits laitiers où faut vraiment avoir une consommation qui est raisonnée, quoi. Parce que qui dit un kilo de beurre consommé dit 19 litres de lait écrémé générés par ailleurs. Donc c'est voilà. Moi, à chaque fois maintenant que je consomme 250 grammes de beurre, je me dis il y a bien 5 litres de lait qui ont été créés par ce beurre-là.
Et du coup, est-ce que tu remplaces le beurre parfois? Parce que là, je pense, tu vois, la cuisine au beurre, ça fait partie du patrimoine gastronomique.
Absolument. Donc, j'essaye de composer. Je vais pas te dire que je consomme plus du tout le beurre parce que j'en consomme encore. Mais c'est vrai que j'essaye maintenant autant que possible de trouver du remplacement. Il y a des aliments en cuisine qui s'accommodent très bien d'huile d'olive ou d'huile végétale. Donc, ça peut marcher. Après, je t'avoue qu'un beau poisson blanc, à la poêle comme ça là, c'est un peu triste de le faire sans beurre, donc j'en utilise encore. Mais voilà, je trouve que pour tout le monde, la première étape déjà d'avoir cette pleine conscience, cette mindfulness comme ils disent les Anglais, de ce qu'on est en train de consommer, comme on est en train de le consommer, je trouve que c'est déjà un très bon premier pas pour essayer de faire mieux quoi.
Super, écoute, merci beaucoup.
Un grand merci Fanny de m'avoir reçu.
Merci d'avoir écouté Sur le Grill d'Écotable. Nous espérons que cet épisode vous a plu et que comme nous, vous avez appris de nouvelles choses. Pour nous soutenir, n'oubliez pas de noter ce podcast 5 sur 5, de vous abonner et d'en parler autour de vous. Sachez par ailleurs que la musique de ce podcast est issue du merveilleux groupe engagé, le Caribou Volant. Et puis surtout, n'oubliez pas d'aller manger dans les restaurants écotables. À bientôt sur notre grille.